Alors, fidèle à notre habitude, les mardis à 8h15, eh bien, on reçoit Éric Trudel pour discuter logement social. Il est de retour en studio après des vacances en gardiennage de chien.
Ouais, on peut pas vraiment placer les vacances, là, mais ça a été quand même agréable, là, côtoyer des animaux. Ça fait, je suis sûr que c'est un peu de la zoothérapie.
Oui, ben, exactement. C'est bon pour la santé mentale, pour le moral, puis ça devait être très agréable. Éric, aujourd'hui, on parle toujours de logement social. On a un petit segment actualité dans ta chronique.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des taux d'inoccupation qui sont assez élevés là, dans la résidence pour personnes âgées. On a entendu parler dans les derniers mois de la crise du logement, mais au niveau des résidences personnes âgées, c'est un petit peu le contraire qui se passe. C'est qu'il y a eu une enquête dernièrement de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, qu'on appelle la SCHL, qui enlève un peu le voile sur quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire que les taux d'inoccupation là, sont en forte hausse dans les résidences pour personnes âgées.
C'est drôle, j'aurais cru l'inverse.
Ben en fait, ça s'explique peut-être par le fait qu'à cause de la pandémie, il y a plusieurs peut-être de personnes âgées qui ont décidé de postposer leur déménagement, de pas s'en aller tout de suite en résidence, peut-être la peur aussi de la COVID, tout ça. Donc, ça a peut-être fait en sorte là que ça pourrait être une des raisons, parce qu'on parle d'un taux là qui a atteint là en 2021 12,8% d'inoccupation. Alors, c'est par rapport à l'année passée, là, c'est presque le double, là, parce qu'on parlait de 6,9% l'année passée.
OK. Puis là, c'est drôle, ce matin, on en parlait dans Le Soleil. Il y a la plateforme Oscar qui est censée centraliser tout ça. Ça a l'air pas évident, la gestion de résidence pour personnes âgées, les RPA, là.
Ouais, ben surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement, hein, c'est sûrement pas facile parce que oui, on a parlé un petit peu la semaine dernière, il y a les taux d'inoccupation, mais il y a aussi la difficulté de trouver la main-d'œuvre. Il y a le fait aussi qu'il y a eu la COVID qui peut faire peur à certaines personnes. Il y a le fait aussi que parfois, pour trouver des bénévoles aussi là pour s'occuper, parce que en OSBL d'habitation, bon, c'est souvent géré par un conseil d'administration de bénévoles. Donc souvent, ça peut être difficile de se trouver des gens qui sont prêts à s'impliquer là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Là.
Puis en tout cas, il y a des outils qui se déploient. C'est un dossier qu'on va suivre de près parce que c'est inquiétant pour les personnes âgées. Là.
Oui, puis même tu sais, pendant la pandémie, il y avait aussi le fait que les visites de logement étaient à peu près pas possibles. Hein, donc, c'était difficile pour les gens s'ils voulaient vraiment voir si c'était un milieu de vie qui les intéressait. Alors, des fois, oui, on peut voir visuellement par vidéo, etc. Là, mais c'est sûr que d'être sur place, c'est autre chose là pour pouvoir vraiment savoir. Parce que quand même, on va vivre des gens qui choisissent d'aller vivre là, c'est quand même pour plusieurs années.
Hein. Oui, puis même des fois, c'est une solution... Sans dire final, parce que ça sonne vraiment dramatique, mais c'est permanent, du moins comme décision. Ouais. Au cœur de ta chronique aujourd'hui, Éric Trudel, on parle d'OSBL d'habitation. C'est aussi du logement social temporaire, transitoire. Où est-ce que tu nous amènes avec ce sujet-là aujourd'hui?
Comme je vous ai parlé la semaine dernière, donc il y a trois types de logements sociaux, donc les HLM, les coopératives et les OSBL d'habitation. Bien sûr, ça, c'était tous des types de logements permanents, c'est-à-dire que les gens sont là pour à long terme. Mais dans la catégorie des OSBL d'habitation, on a aussi du logement social de forme de temporaire ou transitoire. Okay. Alors ça, c'est pour des gens qui, mettons, sont des sans-abri qui vivent de l'itinérance, des jeunes qui sont en difficulté, des femmes victimes de violences, des gens qui vivent des dépendances, qu'elles portent. Parfois, ils ont des besoins temporaires pour le temps d'hébergement, puis en même temps, de suivre une thérapie ou alors d'être accompagné dans différents types de services durant quelques mois. Alors, justement, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui existe ici à Québec, ben, je vous ai sorti quelques noms d'organismes des OSBL d'habitation qui offrent du logement temporaire. Ben, un qu'on connaît sûrement, ben, que tu connais toi aussi sûrement, c'est l'Aube-Rivière, oui. Qui est situé, qui a déménagé d'ailleurs sur la rue du Pont il n'y a pas tellement longtemps. Bien sûr, on sait que bon, ils offrent la soupe populaire puis l'hébergement temporaire, mais ils offrent aussi plein d'autres services comme le service de dégrisement, service de jour, des programmes d'aide de retour en emploi. Il offre aussi de la fiducie, ça c'est autrement dit, c'est pour les aider à retrouver une certaine autonomie financière. Il y a des haltes aussi pour les gens qui veulent juste aller prendre une douche, dormir quelques heures dans le jour. Il y a aussi le projet Porte-clés qui aide en fait à trouver, à se réintégrer dans un logement permanent à ce moment-là. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'aspect rétablissement là, des gens qui fréquentent l'Aube-Rivière.
C'est fou à quel point ils offrent plus de services qu'on le croit. Hein. On pense que l'Aube-Rivière, c'est comme un arrêt stop un peu pour les personnes en situation d'itinérance, mais dans le fond, ils sont ultra proactif dans la remise sur pied de ces personnes-là.
C'est ça, c'est pas seulement l'accueil, mais c'est tout aussi l'aide, l'accompagnement là, pour ceux qui veulent, parce que c'est peut-être pas nécessairement tous qui veulent retrouver une certaine autonomie. Il y a aussi, là, peut-être plus axé sur les jeunes, il y a le squat de Basseville aussi, là, qui fait partie des OSBL d'habitation. Parce qu'eux aussi offrent du logement temporaire là, pour les jeunes de 12 à 17 ans là, qui sont en fugue ou en rupture là, avec leur famille. Puis, ils offrent aussi également pour les jeunes adultes jusqu'à 25 ans pour prévenir aussi l'itinérance sur les jeunes de 25 ans et moins. Là.
OK. Puis ça, c'est situé où, le squat?
Le squat, c'est sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Je sais pas si tu connais cette rue-là. Alors, eux autres sont situés dans ce coin-là, mais ils offrent aussi plus de services qu'on croit aussi. C'est pas seulement de l'hébergement. Là. Il y a des repas, bien sûr, le dépannage alimentaire, de l'écoute, de relations d'aide, soutien aux parents, médiation, de l'accompagnement de dépannage vestimentaire. Ils font de l'animation, de la prévention, premiers soins, transport, budget. Alors vraiment, il y a vraiment beaucoup de services qui sont offerts par ces organismes-là. Des fois qu'on n'a pas conscience là, que...
On a de belles ressources quand même à Québec.
Effectivement. Alors, ceux qui veulent en savoir plus par rapport au squat, c'est le squatbv.com, là, c'est le site Internet. Un peu dans la même catégorie, le Piolet, je ne sais pas si tu connais, qui offre la restauration, qui est situé sur la rue Racine. C'est aussi pour les jeunes, mais en difficulté de 16 à 35 ans. Eux, en plus de l'hébergement transitoire, ils offrent aussi une formation en cuisine.
Oh.
Parce qu'il y a de la restauration sur place. Alors, en même temps, c'est un milieu de vie, puis en même temps, un milieu de formation pour les jeunes qui vont au Piolet. Alors, ça leur permet de découvrir un métier, puis en même temps, de l'expérimenter, parce qu'il y a le restaurant qui est sur place, qui leur permet là, de faire du service directement en live.
Le Piolet. Oh, ouais. Je connaissais pas ça non plus. Mon Dieu, c'est fou.
Ensuite, il y a le Centre de crise de Québec, bien sûr, qui accueille des personnes en situation de crise, qui fait justement aussi de l'hébergement, mais de l'intervention aussi téléphonique. Ça peut être seulement, effectivement, quelqu'un qui est en crise, qui veut téléphoner au centre de crise. Lui, il est situé sur le boulevard René-Lévesque-Ouest. Il offre aussi des entrevues externes. Il y a une équipe mobile aussi qui se déplace pour aller rencontrer dans des milieux des gens qui sont en période de crise. Là. Donc, c'est plusieurs types de services. Et ça, c'est le centre de crise.com si vous voulez plus d'informations. Il y a également, plus spécifiquement pour les Autochtones, il y a la maison communautaire Missinac, qui est une genre de maison d'hébergement pour les femmes.
À Québec encore.
Toujours à Québec, toujours pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales au niveau des Autochtones. Ça aussi, bon, il offre plus que juste l'hébergement puis de l'accueil. Bon, il y a des ateliers sur la violence, l'estime de soi, les relations saines, comment acquérir des habiletés parentales saines. Il y a un service d'écoute téléphonique, l'intervention individuelle, de l'aide au relogement. Ils aident même s'il y en a parmi elles qui veulent retourner aux études. Alors, c'est vraiment toute une gamme de services, nécessairement qu'on n'est pas nécessairement conscient qui existe là, dans ces différents centres d'hébergement pour les femmes ou pour d'autres.
Éric Trudel, on parle de logements sociaux, plus particulièrement d'OSBL, d'habitation, qui sont des logements parfois temporaires, transitoires. Là, tu nous en énumères plusieurs, mais où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il y a un répertoire de ces types de logements-là?
Oui, bien sûr. Entre autres, la Fédération régionale des OSBL d'habitation là, de Québec, Chaudière-Appalaches, justement, sur le site on appelle la FROC, parce que c'est plus facile que de tout nommer le nom. Alors, la FROHQC, vous allez faites une recherche sur Google là-dessus, vous allez avoir donc le site Internet, puis il y a les membres de de tous ces services-là. Sinon, il y a aussi le service 211, qui est un peu
le
comme
2-1-1?
Le 211, c'est comme le 811, mais c'est un 211. Là-dessus, vous avez soit par Internet ou par téléphone, vous appelez là, puis ils vont vous donner les services qui existent dans tel domaine.
Okay.
Ou alors, sur leur site Internet, vous pouvez faire une recherche par, mettons, centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Ben là, ils vont vous donner toute la liste des centres d'hébergement qui existent là, dans la région que vous voulez situer. Là.
OK, très bien. Éric, on se retrouve la semaine prochaine, mais Est-ce que de quoi on va parler? As-tu déjà une première idée?
Ben, on va parler probablement plus spécifiquement des offres de comment nous trouver, justement, tu parles, comment trouver un peu nos offres de logement, comment on peut facilement, comment on peut se poser notre candidature pour être accepté dans ces types d'hébergement de logements social.
Dis-moi, Eric, avant de terminer puis d'aller dans notre courte pause publicitaire, ton intérêt pour le logement social, peux-tu nous rappeler, ça vient d'où?
Bien, en fait, premièrement, moi, j'ai été pendant quelques temps membre d'une coopérative d'habitation, donc ça m'a toujours attiré. Mais tout ce qui est le côté social, l'implication même en politique, je me suis impliqué à un moment donné aussi parce que pour l'aspect là, progressiste, l'aspect amener une vie plus saine aux gens, là, l'intérêt pour l'environnement, tout ça ensemble, ça touche quand même un peu le logement social. Puis en plus, je travaille en ce moment pour... un organisme qui œuvre en logement social, fait que c'est encore, je suis encore vraiment dedans là, je tremble là-dedans. Là.
Oui, ben t'es notre référence en ce qui a trait le logement social. Merci beaucoup de ton passage. On se donne rendez-vous à 8h15 mardi prochain.
Parfait, merci.
Puis on se rappelle que les ressources qu'on a énumérées aujourd'hui sont disponibles sur le site du FROQ, FROQH, c'est ça?
FROH.
HQC, ouais, je vais l'avoir. C'est bien de le répéter encore un petit peu.